Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler à présent des affaires. Comment améliorer le climat des affaires pour attirer plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Nous avons dans ce studio l'honorable Ben Carlos Yanda. Il est chancelier des ordres nationaux, chef d'entreprise. Il est en charge des investissements. Monsieur honorable Ben Carlos, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Billy Landry Betou à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination de cette émission. Feza Bungunda, Julie à la réalisation. Miko, c'est Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, en République démocratique du Congo, l'amélioration du climat des affaires demeure un impératif pour attirer plus d'investisseurs et favoriser ainsi la création des emplois. Cependant, il n'est pas toujours facile de démarrer un business ou une activité économique dans notre pays. Bon nombre de requérants qui s'adressent au service de l'État pour obtenir les documents administratifs afin d'opérer doivent attendre pendant longtemps, 2 ou plus de 3 mois. Et les procédures sont compliquées, moins transparentes. Parfois, il faut dépenser plus d'argent que prévu pour avoir les documents. Par ailleurs, la corruption, les pots de vin, les opérations retour, etc., découragent bon nombre d'investisseurs qui préfèrent aller ailleurs, investir ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer rapidement l'environnement des affaires en RDC, attirer les investisseurs et créer plus d'emplois et plus d'opportunités? Eh bien, on en parle avec notre invité, l'honorable Ben Carlos Yanda. Il est chancelier des ordres nationaux, chef d'entreprise et en charge des investissements. Honorable Ben Carlos, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Quel état des lieux vous faites des investissements dans notre pays ou du climat des affaires dans notre pays?
Comme vous le savez, d'abord, le climat d'affaires, c'est l'ensemble de toutes ces décisions qui approchent le développement de plusieurs activités. Pour notre pays, comme vous le savez, nous avons intégré beaucoup de facteurs sociodémographiques, facteurs juridiques, facteurs économiques, politiques, parce que c'est aussi très important pour savoir que pour que le climat d'affaires soit amélioré, il faut que tous ces facteurs soient mis ensemble. Mais déjà, vous connaissez que nous avons eu beaucoup de problèmes, parce que ça fait plus de 15 ans, comme je l'ai dit, que je suis dans les investissements. Et aujourd'hui, nous avons eu certaines approches avec le gouvernement. D'abord, c'était l'ancien régime qui nous a, en 2018, mis certaines difficultés. Non, pas difficultés comme telles. Nous avons fait à ce que le gouvernement comprenne que pour qu'il y ait des investissements, il faut qu'il y ait un climat d'affaires très, très, très apaisé. C'est comme ça qu'il y a eu cette mise en place, d'abord de l'adhésion à l'OADA, notre pays. Nous avons aussi adhéré aussi pour le PME, parce que les petites et moyennes entreprises, c'est quelque chose de très important. Et il y a eu aussi la création de l'ANAPI, qui est l'agence
qui fait des promotions.
Pourquoi? Parce que vous savez, quand un investisseur vient, c'est pour qu'il y ait des facilités sur son investissement. C'est-à-dire que il amène des moyens, vous mettez les moyens en place, et après il retourne ses bénéfices. C'est ça même le définition de l'investissement. L'investissement, c'est à dire que vous mettez vos moyens et après vous retournez
les
bénéfices.
Pour gagner, pour avoir des profits. Mais...
Alors maintenant, quand vous prenez celui qui vient par exemple aujourd'hui, d'ailleurs déjà à l'aéroport, il est plus tracassé parce qu'on a besoin de l'argent. Et commencer d'abord une création d'entreprise qui prend, comme vous l'avez dit, un mois, deux mois, trois mois.
Et la pourtant, on avait mis en place les guichets uniques de création d'entreprise, mais beaucoup de choses n'ont pas changé.
Mais bien sûr, non, c'est pas que ça n'a pas changé, mais vous savez, nous sommes en train d'améliorer. Depuis l'avènement de président Félix Tshisekedi, nous avons fait ce travail et d'ailleurs, je félicite tous ces efforts que le gouvernement en place a fait de mettre certains services. Comme tu l'as dit, le guichet unique, c'est un service un conseiller spécial en matière d'investissement. Nous avons eu aussi celui qui était chargé pour le climat d'affaires apaisé. Et nous avons compris que si on pouvait plus aller plus loin avec tous ces services, ça pouvait nous faciliter que le climat soit plus apaisé. Mais du moins, nous sommes en train de faire des efforts. Les efforts, c'est que aujourd'hui, quand j'amène un investisseur à l'aéroport, les gens comprennent déjà que ces messieurs viennent nous aider et ils se sentent plus à l'aise.
Il y a plus des tracasseries.
C'est pas comme avant.
C'est pas comme avant. Les tracasseries ont quand même diminué.
Non, je ne dis pas que tout est fini, mais je dis quand même que nous avons fait une partie du travail. Si c'était le tracé à 100%, maintenant c'est peut-être à 20%. Avec Tshisekedi, nous avons vraiment, vraiment demander à nos frères que les gens qui viennent, ils viennent pour nous aider. Ils viennent aussi pour que ce pays puisse prendre un élan d'émergence et surtout de développement. Alors que ces gens, quand ils arrivent, vous devez leur mettre à l'aise. Dans quel sens? Dans le sens où vous leur orientez réellement ce qu'ils doivent faire, si c'est qu'ils ont déjà du projet. Ceux qui n'ont pas de projet, vous leur donnez d'abord des projets clés qui peuvent aider le social de la population et en même temps qui peuvent aussi les aider. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un service lié à la présidence qui s'appelle l'agence de pilotage de convention et de suivi de pilotage de collaboration et de suivi de toutes les conventions. C'est-à-dire quoi? Cette agence-là est en train d'aider les investisseurs qui arrivent. Par exemple, vous venez avec un montant d'investissement et on vous dit faites l'infrastructure et en contrepartie, on vous donne les ressources naturelles que nous avons. Nous avons beaucoup de ressources naturelles que, comme vous le savez, nous avons des minéraux stratégiques qui font ce que ce monde existe. Et si l'investisseur est garanti dans ce sens-là, il va mettre son argent et en contrepartie, on lui donne les ressources naturelles qui sont tout à fait
c'est le cas avec la commune aujourd'hui.
Oui. Bon, c'était d'ailleurs l'agence des grands travaux, mais qui a été changée pour toutes les conventions. Parce que la commune, c'était seulement pour l'échange sino-congolais. Mais en fait, ils ont agrandi. Et aujourd'hui, quand j'amène les investisseurs, je les oriente là-bas. Et c'est par là qu'ils vont signer des contrats. L'investisseur, s'il est garanti qu'il va rembourser son argent, nous aussi, nous sommes garantis que nous aurons une infrastructure, par exemple, une infrastructure routière, une infrastructure hospitalière, une infrastructure, par exemple, le logement social, tout ce que les Congolais ont besoin pour améliorer sa vie. Et puis, mais aussi, n'oubliez pas que ça va se donner plus d'emplois à nos populations. Et voilà, tout le monde est garanti et cette agence nous aide à mettre toutes les choses en place.
Alors, vous dites que, honorable Ben, vous dites que déjà au niveau de l'aéroport, les tracasseries ont sensiblement diminué. Si c'était à 70%, aujourd'hui c'est à 20%, c'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, quelles sont les autres difficultés qui restent à résoudre?
Ah, c'est une très bonne question. Bon, les difficultés qui restent à résoudre sont plus faciles. C'est l'administration. L'administration au niveau de notre pays est très lente. Ça, il faut qu'on se le dise.
La lenteur administrative.
La lenteur administrative parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup plus de temps à attendre. Parce que vous savez, l'investissement aussi joue sur le rôle,
sur le temps.
Et c'est un rôle très primordial. Parce que vous savez, quand l'investisseur vient, il a déjà fait son schedule. C'est-à-dire qu'il a déjà fait sa planification. Il a déjà fait son planning de travail et même fait même son budget selon ce plan. Alors, quand il vous arrive et que vous lui prenez beaucoup de temps, moi, je me rappelle que j'ai amené un investisseur qui était venu signer pour deux jours, mais qui a fait un mois en hôtel. Vous savez, c'est déjà un manque à gagner pour lui et c'est de l'argent
qui part.
Des
imprévus.
Voilà. Ce sont des choses que nous devons vraiment faire un effort pour que ça diminue. Mettre en place une structure qui peut aider l'investisseur à aller plus vite. Vous savez, la signature d'un ministre ne doit pas être par prophétie, parce que aujourd'hui, pour qu'on te signe, il faut qu'on te prophétise qu'on va signer ton document, tu vois. Alors, on doit réellement faire à ce que tout soit plus facile.
Document qu'on peut délivrer en un jour, il faut attendre 3 mois.
Il faut attendre 3 mois. Et vous savez que c'est vraiment un manque gagné, pas seulement pour l'investisseur, mais aussi pour le pays. Par exemple, quelqu'un qui vous arrive avec les jugements sociaux, vous le prenez 3 mois. Le pays n'aura pas ces jugements sociaux. Vous comprenez?
Et pourquoi ça traîne?
Pourquoi ça traîne, je ne sais pas.
À cause de la corruption, tous les niveaux, dans l'administration, il faut laisser un peu d'argent ici, à gauche, à droite.
Non, vous savez que nous sommes encore une démocratie jeune. Et nous sommes en train de nous bousculer de ça et là. Je sais qu'il y a certains aussi qui n'ont pas encore compris que les choses doivent être faites d'une manière générale, c'est-à-dire que on ne peut pas prendre l'intérêt général pour un intérêt personnel. Parce que les gens veulent bien qu'ils soient bien servis en avant avant de servir le pays. Et c'est ça qui bloque beaucoup de choses. Vous savez, les investisseurs, il y a des gens qui bradent ce pays à cause de peu d'argent. Ils peuvent mettre en péril un investissement de plus de milliards de dollars.
Qui peut profiter à plusieurs Congolais.
Parce que on lui a pas donné peut-être 10 000 dollars qui n'est insignifiant par rapport à l'investissement. Enfin, ce sont des choses que nous devons vraiment lutter, changer, de manière que nous puissions aider ce pays à l'émergence. Voilà. Les investissements, comme je vous l'ai dit, à plusieurs reprises, j'ai amené beaucoup de gens avec beaucoup de projets. Dernièrement, j'ai amené Gazmine avec un projet de plus de 100 milliards de dollars, dans l'investissement dans plusieurs secteurs. Ils sont même prêts à construire les aéroports. Ils vont amener des industries de fabrication des véhicules, de fabrication de tout ce qui est automobile. Ils sont prêts à nous amener l'énergie solaire, de raffiner. C'est vraiment un grand paquet d'investissements. Et là, je suis en train de me battre parce que maintenant, là, nous sommes à la phase de la signature avec le ministère des Mines, de Finances plutôt, parce que c'est le ministère des Finances qui doit garantir l'investisseur. Et ces choses-là doivent se passer rapidement, parce que ces gens-là savent que nous avons à jouer sur le temps. Et si le temps nous permet qu'on fasse cet investissement, ce sont des investissements qui peuvent prendre beaucoup d'années, et le remboursement aussi c'est pas moins de 10 ans, vous comprenez. Alors c'est ça qui est comme la problématique la plus difficile. Mais nous sommes en train de nous battre avec son excellence Monsieur le Président, qui est vraiment à notre écoute à tout moment quand on a besoin de lui. Il nous conseille, il nous dit ce que nous devons faire. Et il est vraiment très ouvert. Vous savez que lui, c'est la pyramide renversée, où le peuple est souverain. C'est le peuple qui est au-dessus de tout. Et il est en train de nous donner toutes les voies possibles afin que toutes ces choses finissent et que nous puissions amener réellement ce pays en émergence et en développement.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quelque part, il peut y avoir un conseiller ou quelqu'un qui bloque les dossiers parce qu'il veut voir clair et il veut aussi avoir 40% dans cet investissement-là. Comment résoudre ce tel problème, ce genre de difficultés?
Vous savez, aujourd'hui, nous avons un ministre de la Justice, d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, que je salue en passant, qui est en train de mettre en place toutes les stratégies possibles. Mais aussi, nous avons le premier président de la Cour de cassation, j'ai même suivi son discours, qui a vraiment tonné sur ces choses-là.
Parce qu'on a perdu beaucoup d'investissements comme ça.
Mais bien sûr, nous devons dénoncer. Vous savez, dans plusieurs pays aujourd'hui, il y a même des pancartes où on a écrit dénonciation à la corruption. Nous devons savoir ces pancartes-là. et dire donner aussi des lois très dures pour des gens pareils. Mmh. Et dès que nous les dénonçons, ils doivent être jugés en flagrance, parce que c'est pas possible que vous puissiez à cause de vos intérêts personnels,
votre égoïsme,
et brader ce pays d'une façon négative, c'est vraiment pas possible. Ce sont des gens, moi je les appelle les Akans, tu vois, l'Akan dans la Bible, on l'a plus brûlé. Pourquoi? Parce que à cause de ses intérêts privés, il a voulu sacrifier tout un peuple. Alors moi je dirais, c'est moi que la loi soit appliquée à ces gens et que ces choses, parce que vous savez que s'il y a les gens qui sont arrêtés à cause de ça, et il y a la punité, vous allez voir que tout ça va
s'arrêter. Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons déjà en ligne un premier auditeur depuis la ville de Kananga, Malanjuanshinga. Il s'agit de Clément Ndaye. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Nkachama. Bonjour aussi à l'invité de la radio Capier.
Quelle est votre préoccupation?
En tout cas, il est vrai que le sujet en question m'intéresse personnellement. J'ai observé que la RDC, c'est un pays qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Mais ce qui me préoccupe davantage, c'est la mauvaise volonté de nos dirigeants ou nos autorités. Alors, je voudrais demander à notre invité, par rapport à ce qu'il vient de donner, quelles sont les méthodes ou les stratégies qu'ils ont prises pour vraiment éradiquer la mauvaise manière de gérer, c'est-à-dire les rétrocommissions, à un moment donné l'esprit d'égoïsme, et puis tant d'autres pratiques qui, à un moment donné, font peur vraiment aux investisseurs. Il y a ceux qui donnent, l'argent est déjà, on dit que l'argent est donné, mais à un moment donné, on trouve que non, l'argent n'est pas donné. On commence maintenant à tracasser ou bien à injurier, menacer les entreprises. Alors, à un moment donné, ça fait mal et puis ça fait peur aux investisseurs pour qu'ils viennent aussi investir dans un pays qui est trop riche à un moment donné, mais qui intéresse, mais ceux qui se font vraiment laissent à désirer. Ce sont ce que je voudrais savoir, quelles sont les méthodes qu'ils ont déjà entreprises à un moment donné pour éradiquer de tels comportements. Merci.
Bien, merci Clément. Vous voulez participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez le 099-706-9941. Bien, honorable Ben, vous avez suivi Clément de Kananga qui déplore ces pratiques de rétrocommission.
C'est vraiment bien. Nous avons déjà commencé le travail. Le travail que nous avons fait déjà une charte, je crois qu'on va passer à des signatures pour recadrer toutes ces choses-là. Je crois bien que c'est une pratique de plusieurs décennies, mais qui n'est pas aussi facile à arrêter directement. C'est aussi une hémorragie qui a déjà commencé. Et pour l'arrêter, nous avons pris déjà des stratégies. Bientôt, nous allons présenter aux autorités en place. Bien sûr, je ferai aussi un effort pour que Son Excellence, Monsieur le Président, nous lise, et Madame la Première Ministre, de manière que nous puissions mettre en place peut-être une coordination. Il y a déjà des coordinations qui sont déjà là. Peut-être aussi améliorer ces coordinations de sorte que nous puissions freiner ces choses. Parce que réellement, ce qui est vrai est que nous avons vu les gens qui ont très mal agi, qui ont bloqué beaucoup d'investissements, qui ont bloqué beaucoup de choses qui pouvaient aider plus la population à cause de ça.
À cause des intérêts égoïstes.
Voilà. Alors, pour notre ami de Kananga, je vous dis que soyez calme, nous sommes en train de travailler. C'est quelque chose qui n'est pas très facile. Je pourrais pas vous dire que à cause de baguette magique, on va arrêter ça. Mais du moins, nous sommes en train de travailler et avec le président de la République qui est très très proche de la population, il nous a déjà permis de faire ce travail, et très bientôt, dès que nous allons finir, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Mais du moins déjà, les choses s'améliorent parce que les gens comprennent déjà.
Alors s'il y a plus d'investisseurs dans notre pays, qu'est-ce que cela va apporter comme avantage?
Mais monsieur Jody, rappelez-vous que Dubaï, que les gens aujourd'hui parlent de Dubaï, parlent de Dubaï, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est un petit pays qui a été un désert en 1990. Déjà, en 1980, les gens ne pouvaient pas aller à Dubaï. Mais comment aujourd'hui les gens y partent? C'est parce que ils ont accueilli beaucoup d'investisseurs et ils ont bradé leur pays positivement. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, bon, nous avons quoi? Nous avons le pétrole. La plupart des gens ont besoin du pétrole. Alors, vous vous amenez à Dubaï comme investisseur, ils vous disent, OK, on va faire les chances. C'est que maintenant, l'agence que j'ai, c'est fait. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, vous ne faites par exemple un hôtel et en contrepartie, on vous donne du pétrole.
On vous donne ceci,
oui. Ah, oui, oui. Par rapport à la quantité ou bien par rapport à, au montant d'investissement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est un pays maintenant qui est...
C'est comme ça que Dubaï s'est développé.
C'est-à-dire à cause des investisseurs. Les investisseurs sont très, très importants quand vous savez les cadrer et les encadrer plutôt. Et vous savez aussi leur montrer les avantages qu'ils auront après avoir investi dans votre pays. Parce que c'est très important. Un investisseur, c'est un businessman. Un businessman veut d'abord savoir, oui, réellement, je vous aide, mais après, en contrepartie,
que je
gagne.
Oui.
Et après, il vous fait cette
infrastructure. Et il faut lui montrer dans quel secteur, dans lequel il peut investir.
Il peut investir, et puis ce secteur-là qui va d'abord améliorer les structures de la population. Parce que je vous ai dit que parmi les facteurs qui font que le climat d'affaires soit apaisé, il faut qu'il y ait un facteur sociodémographique. Parce que c'est très important, parce que nous investissons pour la population, pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, nous avons le meilleur tourbière. Nous avons même la meilleure oxygène avec notre forêt, notre grand bassin. Nous avons toutes les ressources naturelles qui peuvent faire que ce pays, que le monde vive. Alors, quand l'investisseur vient, vous leur montrez qu'il y a ça. Nous avons le gaz méthane, nous avons les minéraux stratégiques comme le lithium, les 3T, nous avons l'or, nous avons tout ce qu'il faut. Mmh. Alors, si on sait brader ces minéraux, je vous dis qu'on sera plus que... Si Dubaï ne fût que pour le pétrole, ils sont devenus ce qu'ils sont, les Émirats Arabes Unis. Mais nous qui avons toutes ces richesses qui sont... plus potentiel, comment ne pouvons pas être un petit paradis au niveau de cette terre. Voilà. C'est que nous avons besoin de beaucoup d'investisseurs parce que quand ils viennent, ils vont laisser des infrastructures qui vont nous aider. Les logements sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que tout Congolais ait une maison décente. Et c'est plus facile. Si nous avons des industries de fabrication de tôles, fabrication de ciment, nous avons amené des cimenteries,
fabrication des barres de fer.
Voilà. Les matériaux seront plus moins chers et aussi la main d'œuvre congolaise qui est aussi moins chère, la main d'œuvre locale. Et vous allez voir qu'une maison, par exemple, de 3 chambres peut coûter à 15 000 $. Et tout Congolais peut avoir cette maison avec son petit salaire et le repayer peut-être après 10 ou 20 ans. Faire ce qu'on appelle le crédit immobilier avec les banques. Alors on leur dit, tu es fonctionnaire de l'État, combien tu gagnes par mois, et on te donne pour 10 ans, pour 20 ans, comme on le fait dans des pays étrangers. Voilà. C'est-à-dire que le Congo...
on va accueillir les auditeurs. Bien. Nous avons Roger Marcel de Kinshasa et Ismaël Mumpoy de Lubumbashi. Roger, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis bonjour à l'invité et bonjour à tous les amis qui étaient de la fréquence de la
Quelle est votre question?
Monsieur, je dis, vous savez, en République démocratique du Congo, pour investir, c'est un grand problème. Et nous sommes dans cette terre-là. Vous savez, ce qui tue notre pays, c'est quoi? On a des dirigeants, lorsque les investisseurs cherchent à venir investir en République démocratique du Congo, il y a un ami de Sanakia qui fait des systèmes de rétro-commission. Vous avez dit avec même le conseiller, le chef de l'État, Vidi Manga, ou des vidéos qui étaient devenues même virales sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui pose aussi un grand problème. Vous allez voir, vous êtes dans un domaine, lorsque vous cherchez d'aller avoir un peu de documents, vous êtes taxé. Même vos revenus, ce que vous gagnez, c'est moins, mais les taxes que vous payez, ça devient, vous payez plus. Comment la personne peut investir dans un pays où les sécurités règnent? Aujourd'hui, partout où vous allez dans des camps, il y a toujours les sécurités. Il y avait un projet que j'ai fait au niveau des Maloku, au niveau de l'agriculture. Ces projets-là, ça se stoppe pourquoi? Parce qu'au niveau des Maloku, il y a les gens des Bobolais qui sont là lorsque vous passez là. Il n'y a pas moyen d'aller verser vos produits là-bas. C'est le cas problème pour passer là-bas. Quand vous êtes dans un secteur comme ça, et puis il y a la terre, il y a les sécurités, comment vous allez investir dans un secteur comme ça? Je pense que l'État congolais va améliorer côté les sécurités. On est aussi de réduire un peu des taxes. Lorsque vous cherchez de payer vos choses, que ce soit dans un norme vraiment, que les gens ne soient pas là, vous faut passer aussi donner de l'argent. Et si l'État congolais arrive à améliorer un peu comme ça, je pense qu'on pourra évoluer. L'État a besoin... On puisse avoir un peu des millionnaires, des entrepreneurs. Mais si ces systèmes-là ne sont pas bannis, on continue toujours avec le même bavir-là. Je pense qu'on pourra être là toujours pour dire, dénoncer, mais on n'y aura pas aucun changement qui sera nécessaire.
D'accord, merci. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi. Vous voulez participer à cette émission sur l'amélioration du climat des affaires. Composez le 099-706-9941. Ismaël Mumpoy, bonjour.
Daniel Kachama, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, oui. Pour améliorer cette affaire, je pense que nous avons trois parts de responsabilité. Et l'investisseur, et le gouvernement, et la population congolaise en général. Bon, je pense qu'au début du premier mandat du président de la République a fait plus de rondes à chercher les investisseurs. Mais la plupart d'entre eux ont dit, je parle maintenant des comportements vis-à-vis de la population congolaise. À Nonandé, vous êtes témoin de ce qui s'était passé. Ces gens ont vu leur investissement pillé par le peuple congolais. Vous imaginez, vous êtes devant un blanc et que vous avez dépillé tout ce qu'il avait en les abîmant, en prenant, en détruisant tout ce qu'il avait pris du temps pour investir. Cela a causé plus aussi de préjudice. Deux, nous avons le comportement vis-à-vis des autorités. La corruption, la démagogie, tout ça, ça ne permet pas à ce que les gens, comme le blanc, puissent investir. Et cela pouvait être une chance pour le peuple congolais de leur créer le microcrédit en vue de les booster vers l'économie claire et nette sur le même endroit. Nous avons des taxes. Les taxes aident aussi les pays à se développer parce qu'on dit un bon citoyen doit payer les impôts pour la reconstruction du pays. Mais plus d'impôts, tu as aussi. C'est ça ce que les gens craignent. Nous sommes à Kasumbalesa où un marché est du côté de la Zambie, mais pas au Congo. Pourquoi les gens disent, même si vous créez un marché ici, chez vous, il n'y a que la tracasserie, les taxes, les volets, les pillages. C'est ça, c'est que nous ne voulons pas venir avec vos biens là-bas. Vous êtes de la part du gouvernement. Bon, ce sont les gouvernements qui pouvaient attirer les gens vers la RDC. Mais si eux-mêmes qui dirigent cherchent à prendre la commission, rétrocommission, tout, c'est compliqué, je vous dis, il a fallu c'est qu'on améliore les climats d'affaires. Améliorer les climats d'affaires pour booster les investisseurs, c'est que vous avez autant de taxes, il faut les laisser quelques taxes dont ils peuvent payer et les permettre aussi à autant de moins. Non, ça ne peut pas prendre du temps. Pour la NAPI, il y avait un temps où on a réduit sensiblement les temps pour qu'une société, qu'une entreprise commence à fonctionner. C'est une chose à féliciter. Si on parle de Saint-Jean-là, je pense qu'on ne peut pas avoir plus de problèmes. Et plus aussi, nous n'avons pas l'électricité. Du Kasaï central, du Kasaï, du Kasaï oriental. Est-ce que vous pensez qu'un investisseur peut venir investir, par exemple, l'invention des tôles, de telle ou telle chose? C'est compliqué. Il y a des pieux pour les ciments, mais les gens ne viennent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas les courants. Ils vont faire quoi? C'est dans ce sens-là que l'État ou celui qui est là comme député peut aussi plaider pour vivre qu'on puisse aussi intensifier aussi les réseaux électriques en RDC. Cela aiderait aussi et attirera aussi plus des investisseurs en RDC. Merci beaucoup.
Merci Ismaël de Lubumbashi. Maître Mashaka, vous êtes aussi à Lushi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bien. Qu'est-ce que vous avez
merci
à nous dire?
Merci beaucoup de me donner. Oui, Monsieur Jody. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir à cette émission. Parce que vous savez aujourd'hui, ça, les investisseurs au pays, le pays en tout cas ne va pas se développer. Ça, c'est un. Deuxièmement, hormis la sécurité fiscale et ainsi de suite, il y a aussi la sécurité politique, M. Jody, parce que vous savez, aujourd'hui, là où il y a aujourd'hui, on cambriole tel opérateur économique, et aujourd'hui, on a assassiné tel opérateur économique, et ça ne va pas aussi donner le goût aux grands investisseurs de venir investir. D'où notre gouvernement doit tenir compte de tout ça. Hormis la sécurité, M. Jody, bien sûr, il faut améliorer le climat des affaires en envoûtant les investisseurs. Est-ce que la population, les travailleurs qui travaillent au sein des entreprises de ces investisseurs, est-ce qu'ils se retrouvent, M. Jody? C'est une aussi question qu'il faut se poser, puisque aujourd'hui, On ne peut pas seulement voir l'intérêt des investisseurs et oublier les intérêts des travailleurs que ces investisseurs-là utilisent, monsieur Jody. D'où notre gouvernement doit se comporter en responsable sur tous les plans. Hein, savoir comment sécuriser les biens de ces investisseurs-là sur tous les plans et aussi améliorer leur conditions de vie, vous savez, les problèmes de route aujourd'hui, hein, quelqu'un qui a besoin d'aller investir, par exemple, ici chez nous à Lubumbashi, à Kabongo, parce que Kabongo aujourd'hui, c'est le poumon agricole du Katanga. Le maïs pourri là-bas, mais tellement qu'il n'y a pas, l'autre gouvernement ne sait pas comment sécuriser cette population agricole qui sont là-bas, dont qui avec l'agriculture, ça va envoûter et amener les investisseurs dans ce domaine-là agricole d'aller investir au niveau de Kabong. Vous savez, la responsabilité est partagée. Et notre gouvernement doit se comporter en responsable sur tous les plans afin que les investisseurs viennent investir dans notre pays et la population aussi se retrouve dans cet investissement, M. Jou.
Bien, merci beaucoup d'avoir appelé Maître Machaka. Honorable Ben, vous avez suivi, on a parlé de l'insécurité, réduire les taxes, sûrement les investisseurs ont besoin aussi des exonérations, et puis on n'a pas trop d'impôts, voilà, c'est pas intéressant, il y a aussi l'électricité, s'il n'y a pas de courant, bon, comment les investisseurs vont venir? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Bon, brièvement, je sais que nous sommes réellement en difficulté, ça c'est vrai. Mais j'ai bien dit quand j'ai commencé l'émission que le pays a tant soit peu essayé d'améliorer ses climats d'affaires en signant la charte de PME, petite et moyenne entreprise, de manière que les taxes soient réduites. Je vous ai encore dit que parmi les résolutions qui ont été faites par le gouvernement en place, je crois que c'était en 2018, ça a été réduit vraiment à probablement. Et nous avons aussi eu l'exonération de plusieurs importations de matériel au niveau du pays. Alors, en ce qui concerne l'insécurité, vous savez, nous sommes un pays riche. Ne vous y trompez pas, nous sommes un pays très riche et qui est plus envié par les autres. Et beaucoup plus ne veulent pas venir d'une façon diplomatique parce qu'ils savent qu'une façon diplomatique, ils vont perdre beaucoup de temps. Vous savez, avec tout ce que nous avons comme administration, ils se disent par exemple qu'ils partent d'une autre façon. C'est ce qui fait qu'il y a l'insécurité, les gens tracassent les autres, mais aussi il y a les gens qui ne veulent pas travailler, qui pensent que le gouvernement va faire tout pour eux, et ils se mettent maintenant à vouloir maintenant cambrioler les autres, comme on dit, l'insécurité à Maluku, toutes ces choses-là. Mais du moins, je sais qu'il y a des services qui sont spécialisés dans cette matière, et je crois que avec la vision du chef de l'État, qui a besoin que sa population soit plus à l'aise, on a déjà pris des mesures sur ça. Mais moi, je parlerai sur le plan investissement. Nous sommes en train, nous, de vouloir amener tout ce que la population a besoin. L'électricité, vous savez que nous avons le meilleur climat dans ce pays, où avec l'énergie solaire, nous pouvons couvrir encore ce pays sur le plan électrique. Nous avons le meilleur embouchure où, avec le barrage Inga. Vous savez que le barrage Inga peut prendre même un quart du monde dans l'électrification. Et nous sommes en train de faire un effort d'amener des investisseurs qui peuvent élargir ce plan-là. D'ailleurs, hier, j'ai parlé avec un investisseur qui veut amener l'énergie solaire avec plus de kilobytes qui peut facilement couvrir même les grandes industries. Et cela a besoin du temps. Vous savez, tout ne se passe pas, comme je l'ai dit, d'une baguette magique. Il faut avoir vraiment du temps. Et maintenant, rassurer l'investisseur, comme notre ami de Lubumbashi l'a dit, qu'ils sont venus ici, les blancs, on les a arrachés les choses. Mais c'est ça aussi, il y a certains investisseurs qui viennent, qui respectent vraiment les lois du pays. Et les autres, quand ils viennent, ils respectent pas les lois. Les gens qui respectent pas les lois, le pays ne peut pas accepter cela. Moi, d'ailleurs, je suis en train de me battre sur ce point-là, parce que quand vous venez investir, vous devez améliorer le social de la population. Quand j'amène des investisseurs qui ne savent pas sur cela, je me casse avec eux et puis on doit les ramener chez eux parce qu'ils doivent respecter les lois de ce pays, parce que c'est très, très important. Et surtout, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une loi qui dit un étranger un travailleur étranger vaut 10 travailleurs locaux. Mais quand on ne voit pas ces choses-là, on doit se dire, on a vu les Indiens faire la commission. On a vu des Chinois faire la main d'œuvre la main d'œuvre locale.
Des beaucoup de grands travaux ici.
Et vous comprenez que ce sont des choses qu'on doit bannir. Moi, je ne veux pas arriver en Afrique du Sud, arriver dans un pays et commencer à faire ce que la population locale doit faire. Non, ça ce sont des choses des antivaleurs que nous devons bannir. Je sais que beaucoup plus ont été soutenus par des gens. Moi, je les appelle les prédateurs. Mais que nous sommes en train de dire qu'on les tire les oreilles. Surtout, on a vu les Indiens, les Indo-Pakistanais, tout le monde là qui viennent avec sans tête, qui pensent que au Congo on peut tout faire. Non, quand on vient investir, on doit signer réellement le contrat, ce qu'on appelle le MOU avec le gouvernement et respecter les lois du pays. Et quand vous respectez les lois du pays, vous allez voir que votre investissement ne va jamais faillir. Moi, je connais Malta Forest qui est venu il y a maintenant un siècle dans ce pays, il n'a jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que il marche, c'est quelqu'un qui respecte les lois du pays, et quand vous êtes engagé chez Forest, il respecte le Congolais. C'est ce qu'on veut avec tous les investisseurs. Mais du moins, pour couvrir aussi un pays comme le nôtre, nous sommes un pays continent, n'oubliez pas, il faut avoir du temps. Nous devons vraiment avoir du temps. Et c'est pas aujourd'hui que le président va faire un miracle. Non, on doit vraiment faire un effort. Il a une très bonne vision pour la population.
Oui.
Nous sommes en train de suivre sa vision. Nous sommes en train de faire un effort pour améliorer ces choses et ramener les investisseurs. Voilà ce qu'on peut faire. Et très bientôt, vous allez voir que les choses vont changer parce que nous sommes dans tous les secteurs. Et c'est agricole, comme il a dit, qu'il y a des maïs qui sont à Kabongo, partout là. On fait un effort pour que des Mweka jusqu'à Kanyamaka, c'est passé par Ngandashika, où il y a le sol arable ou la terre arable qui donne un bon produit de sous-sol, puisse nous donner un grand parc agroalimentaire qui pourra peut-être nourrir pas seulement le Congo, nourrir aussi l'Afrique.
Bien, voilà. On va accueillir Freddy de Lubumbashi. Bonjour. Bonjour Freddy. Oui, on vous écoute, Freddy.
Le sujet est très, très important. Je pense qu'il y a la part des responsabilités des investisseurs. Quand vous descendez dans un pays pour investir, vous devez d'abord vous assurer qu'il y a tel besoin. Et vous vous fixez déjà là où vous allez aller. Vous allez vous fixer sur les priorités, vous fixer sur les préalables qu'il y a pour votre investissement. Et au pays, nous devons avoir une banque de données. On dit qu'un investissement vient répondre à un besoin. Et chez nous, par exemple, dans les domaines des mines, nous sommes pratiquement saturés avec les mines. Il n'y a pas que les mines. Hein. L'investisseur qui vient doit s'imprégner d'abord de ce qui se passe au pays pour pouvoir se positionner. Et le pays va l'aider. Le pays va l'aider comment? En disant, par exemple, voilà, nous avons, nous, une banque de données. Notre pays a besoin de ça. Il y a un ami qui a évoqué le problème de Kabongo. Il y a des produits qui pourrissent là-bas. Donc, quelqu'un qui vient, vous lui dites, par exemple, nous avons besoin de routes. Nous avons, par exemple, besoin de développer une minoterie sur place à Kabongo. Donc, voilà la question. Est-ce que pour développer une minoterie à Kabongo, est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce que la minoterie va demander de l'énergie électrique? Et ce sont des choses comme ça que l'investisseur qui vient doit d'abord chercher à connaître avant de se lancer dans l'affaire. On dit qu'il y a un problème de retard de signature. Bon, en fait, l'investisseur qui vient doit communiquer avec les structures qui sont établies au pays. On parle de la corruption. Oui, la corruption est décriée partout. Mais quand vous cherchez à passer par plusieurs intermédiaires pour atteindre la personne habilitée à décider sur quelconque investissement, vous passez par plusieurs personnes. Et toutes ces personnes-là, qui n'ont même pas un pouvoir, un petit parcelle de pouvoir pour pouvoir vous faciliter l'obtention de ce que vous cherchez. Et tous ces gens vont chercher à dérouler dans la farine, à grignoter l'argent à votre boîte, à chercher comment avoir attirer quelque chose sur vous, ce que vous voulez faire. Mais il y a toujours une procédure qui peut amener l'investisseur à atteindre la personne à titrer pour pouvoir faciliter les choses. Sûrement qu'on ne peut pas accepter un investissement sans savoir justement de quoi il va s'agir. L'investisseur qui vient doit exposer son problème clairement. Voilà, moi je vais dans tel domaine. Je ça comme capital. Et la personne qui vous reçoit, le ministère qui vous reçoit, vous dit, voilà, chez nous, nous avons besoin, par exemple, de ça, parce que c'est ce qui nous pose problème au pays. Et ainsi, je ne vois pas comment la signature peut prendre ou pourra prendre beaucoup de temps. C'est quand on n'est pas informé de là où l'on va, que l'on se fait rouler, que on se fait attendre longtemps.
D'accord, merci, merci Monsieur Freddy. C'est bien noté. Donc, le pays doit disposer d'une base des données. Chaque investisseur, en arrivant, il peut, avant d'arriver, il peut déjà s'informer dans quel secteur il peut mettre son argent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Freddy, honorable Ben?
Mais j'ai bel et bien dit qu'il y a déjà une agence qu'on appelle l'ANAPI qui fait déjà son rôle, qui joue déjà le rôle que l'ANAPI joue. Moi, toutes les fois, quand j'ai besoin de projets dans notre pays, je parle à l'ANAPI et c'est par ce projet-là qu'on va dans les salons. Vous allez savez que je joue aussi le rôle d'ambassadeur au niveau de l'Occident et de l'Orient parce que je participe dans plusieurs salons d'investissement. Et ce rôle-là, je représente le pays auprès des investisseurs pour leur montrer dans quel secteur le pays a besoin d'être investi. Et je connais aussi la population. Vous savez que j'ai une fondation qui s'appelle la fondation BK Carlos Yanda. Je suis plus au chevet des démunis, j'ai des orphelinats, j'ai aussi de veuves, et ainsi que je suis en train de me battre plus pour que nos populations, que ce soit à l'est du pays, parce que je suis presque partout, à l'est du pays partout, pour que nos populations aient de quoi manger, aient de quoi se vêtir et même de quoi s'abriter. Vous savez, ce qui est très important, je vous ai même dit que le contrat que nous sommes en train de signer avec Gazmin, c'est pour les logements sociaux dans toutes les 26 provinces, avec plus de 1000 maisons par province. Et ça va faciliter que le Congolais ait d'abord où s'abriter. Et puis, nous sommes en train, comme je l'ai dit, en train de voir comment construire le parc agroalimentaire, reconstruire Dengandajika, qui était vraiment un grenier pour notre pays. Et c'est avec ça que nous pouvons commencer à améliorer. Vous savez, pour arriver à des grands investissements, il faut d'abord que la population ait d'abord de quoi manger. Parce que c'est vraiment la base des choses. Parce que le ventre affamé n'a plus d'oreilles. Si la population
Il faut plus investir dans l'agroalimentaire, c'est ça?
Mais bien sûr, d'abord, je vous ai dit que nous avons même dans ce paquet de projets, nous avons les routes à des agricoles.
Ouais.
Alors ces routes-là vont nous aider pour que la marchandise qui est à Kabongo, parce que tout le monde a parlé de Kabongo, tu as des marchandises qui cette marchandise arrive jusqu'à Kinshasa, arrive jusqu'à Bandaka, arrive jusqu'à Kisangani, et ce qui est à Kisangani aussi arrive jusqu'à Kwango, vous comprenez. On est en train d'aménager un plan, faire aussi de manière que on fait une mise en place de plusieurs secteurs qui pourront aider la population, surtout aussi la construction des routes nationales. Vous comprenez, les routes nationales sont aussi très 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 importantes, que ce soit une route sur notre grand fleuve. Nous avons aussi les routes en chemin de fer. Ce sont ces choses-là qu'on devons commencer, parce que si la population a de quoi manger, a de quoi se vêtir, a de quoi s'abriter, c'est déjà très important pour leur développement.
Et après, maintenant, un instant, nous avons en ligne Jean-Marie Dekananga. Bonjour. Jean-Marie,
oui, bonjour, Radio Kapi.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'amélioration du climat des affaires?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Nous avons salué la venue de nos investisseurs. Oui, nos investisseurs de l'Égypte. Donc, il y a la route Kamwe-Chakananga. Mais ça, c'est il y a pratiquement plus de 3 ans, il n'y en a pas une amélioration, le travail n'avance pas, mais on se demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque nos frères là. C'était ça ma préoccupation.
Bien, vous avez salué l'arrivée des investisseurs égyptiens qui travaillent sur la route Kamwecha-Kananga, mais les travaux n'avancent pas. Voilà, il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, honorable?
Je peux toujours essayer de faire comprendre aux autorités que les choses n'avancent pas. On va essayer de nous investir sur ça, avoir des réponses clés. Parce que vous savez aussi que cette route de Kamwecha-Kananga nous donne aussi un peu beaucoup de points sur le plan logistique. Vous savez, la logistique est très difficile, surtout dans les centres du pays où il n'y a pas de pour amener les matériels. Ce n'est pas aussi c'est pas vraiment facile. Mais je vais me renseigner et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Parce qu'aujourd'hui, Kananga est très enclavé.
Un d'être enclavé, c'est ça le problème. Nous sommes en difficulté vraiment pour ça aussi. Pas seulement Kananga, même Kasai. Vous savez qu'un sac de ciment, déjà,
à Mbujima, c'est $60.
Pourquoi? Parce que, alors que, à Lubumbashi, c'est $5. Eh bien, c'est, non, je crois qu'à Likasi, c'est déjà $7, $8. À Lubumbashi, $10. Alors, c'est aussi ce plan-là. Nous devons d'abord voir pourquoi ça n'évolue pas. Peut-être c'est parce que
avec l'entreprise arabe contractor.
On va se renseigner et puis on va arriver à donner une réponse clé à notre frère de Kananga, mais voir aussi comment pousser pour que les travaux aillent vite, parce que tous on a besoin que cette route
Kananga doit être désenclavée. Donc c'est vraiment c'est une urgence, si on peut le dire ainsi. Alors, honorable Ben Carlos, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir pour avoir plus des investissements et créer plus d'emplois pour les Congolais?
C'est plus facile quand tout le monde prend conscience, parce que moi j'ai toujours dit que la conscience elle est plus que tout. Il faut d'abord prendre conscience qu'on est Congolais et avoir cet esprit patriotique. Et si on a cet esprit patriotique, nous nous battons déjà. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce service d'amener les investisseurs, et j'en ai plus amené. Vous savez, j'ai un carnet d'adresses très important où j'ai suis tout le temps dans les plus grands salons des grands investisseurs au niveau du monde, et je toque presque tout plus de 140 banques avec qui nous parlons, y compris Exim, c'est sur Exim Chine, Exim partout. D'ailleurs, je serai en Chine avec Exim parce que nous avons encore notre paquet d'investissements que nous sommes en train d'amener, parce qu'on veut que ce deuxième quinquennat du président de la République puisse donner vraiment beaucoup de succès, parce que nous sommes derrière sa vision, nous sommes en train de l'appuyer. Et voilà que la population doit se calmer. Nous sommes en train de travailler sous tout le plan. Chacun fait sa part. Moi, j'ai fait ma part d'amener les investisseurs, et je suis c'est lui qui les aide à bien trouver cette amélioration-là. Et très d'accord. Bientôt, tout sera bien. Tout sera bien fait.
Merci, honorable Ben Carlos Yanda, chancelier des ordres nationaux, chef d'entreprise et chargé des investissements. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la fréquence de la paix et bonne suite des programmes sur Radio Capi.